Dobrze. Je trouve beau ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Comme je pense que les personnes connaissaient le thème, on est au cœur du sujet. Voilà. On va parler de l'encouragement de Dieu au cœur de notre intimité avec lui. Et on a tous besoin d'encouragement, je crois. C'est difficile de vivre sans. Et on va se pencher sur un texte qui parle justement de cela, c'est 1 Roi 19. Alors juste pour le contexte, donc ça se passe en Israël, mais le pays est divisé, et puis il y a un roi qui concrètement manifeste qu'il n'aime pas Dieu. Et il a épousé une femme qui a d'autres idoles que Dieu. Et puis cette femme, Jézabel, elle menace tous ceux qui désirent avoir une vie avec Dieu, le Dieu de la Bible. Et puis en même temps, il y a un prophète, il y en a plusieurs, mais lui en particulier, Élie, qui est très courageux. Et peut-être je vais dire quand il faut mettre les textes. Paul, Pierre. Voilà. Et puis, c'est un homme immensément courageux, déterminé. C'est quelqu'un vraiment d'emblématique pour le peuple d'Israël, dans l'histoire, dans ce qu'il va représenter. On en parle aussi dans le Nouveau Testament. Et courageusement, il va dénoncer le roi, la reine, et il va provoquer un concours. Déjà avant, il prie pour qu'il pleuve plus, pour bien montrer que Dieu n'est pas d'accord avec ce roi, cette reine, et le fait de rejeter Dieu. Il ne va pas pleuvoir, et pendant longtemps, et tout le pays est dans la souffrance. Une souffrance que c'est difficile d'imaginer, hein, qui va durer des années. Et puis, je vais juste vous parler de ce qui s'est passé le jour avant notre histoire. Donc, Élie, il va devant le roi et il dit, moi je vous propose de faire un test. Vous rassemblez tous vos prêtres et moi je me tiens devant Dieu, on va chacun construire un autel, on va égorger un taureau et puis on va demander à notre Dieu, chacun, de faire venir le feu du ciel et puis le Dieu qui répond, bah, c'est le vrai, c'est celui qui existe. Et ça va se passer ainsi et les 450 prêtres du dieu Baal vont pendant une journée tout faire pour faire tomber le feu du ciel, mais vont échouer. Et Élie, même qu'il a tout arrosé avec de l'eau et tout ça, eh ben le feu tombe du ciel et tout va se consumer. Et là, pour Élie, j'ai le sentiment que c'était le résultat du combat de toute sa vie. C'était de réussir à purifier le pays des cultes idolâtres qui allaient contre Dieu. Et il va même faire en sorte avec tout le peuple que les 400 prêtres soient égorgés. Et le jour même, il va prier et dire au roi, si en plus il pleut, ça veut dire que Dieu est vraiment Dieu. Et après le feu, effectivement, la pluie va tomber. Et on voit un Élie, mais vraiment enthousiaste, limite euphorique, qui court et puis il est devant le roi. Il est sûr que ça va tout changer. Et en fait, c'est là qu'il va recevoir un immense choc. Et c'est là qu'il faut mettre le texte, parce qu'on lit ce qui arrive quand Jézabel, cette fameuse reine, entend ce qui s'est passé. Et Jézabel, alors elle envoie un messager pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité mes fameux prophètes, là, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste en genêt. Il souhaitait mourir et dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de vous investir de tout votre cœur dans une cause, pour le bien. Et ça vous a peut-être pris des années, et ça peut être des choses comme soutenir quelqu'un pendant longtemps, puis on espère un magnifique changement. Ça peut être quand on élève nos enfants, puis on s'attend, on a des rêves pour eux, on a tout donné sur notre lieu de travail. On s'est investi dans l'église, par exemple, dans un service, et puis résultat, ça n'a pas du tout été dans notre sens. Puis on se demande ben, à quoi ça servit tout ça. Et je pense que c'est peut-être ça qui a touché le plus Élie. Il a tout donné, il ne reste plus rien. Et le résultat, c'est juste qu'il a en plus menacé lui-même. L'effet du découragement, on voit sur Élie, il est dévastateur. Il a peut-être que ce choc, ce traumatisme, hein, ça fait qu'il a peur, ce qui est étonnant parce que jusque-là, il n'était pas du tout un craintif et il a risqué sa vie plein de fois. Il a un abattement, c'est ce qui nous arrive aussi à nous, hein, une fatigue, un ras-le-bol, un désespoir, un épuisement. Il a envie que tout s'arrête, il a envie de plus rien, sauf de mourir. Puis il est comme envahi d'un sentiment d'abandon, de solitude extrême. Et puis, on va voir il va se passer quelque chose. Parce que dans la suite, on verra que Dieu va être, il va favoriser sa rencontre avec Dieu. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Élie a fait là, dans ce qu'il exprime, qui va permettre à Dieu de le rejoindre dans une intimité particulière? Et il fait quelque chose qu'il est difficile de faire à notre époque. C'est se retrouver absolument seul. Il se retire de tout, de tous. Il ne s'est pas tourné vers quelqu'un qu'il connaissait à ce moment-là. Il fuit et il s'adresse directement à Dieu. Il est pleinement authentique, il est vrai avec ce qu'il ressent. Il n'essaie pas de venir avec un masque, avec une image. Il n'essaie pas de s'excuser. Il est cash avec Dieu. Et puis surtout, il remplit aucun vide. Il est plein de ces choses négatives, mais il ne va pas remplir ce sentiment de solitude avec quelque chose. Et moi, je me dis souvent que pour Dieu, c'est plus facile de nous rejoindre dans nos vides, dans nos failles, dans nos silences, dans nos manques, dans nos fins, dans nos ouvertures, dans nos riens qu'on lui expose, dans notre solitude. Quand tout est rempli, c'est plus difficile pour Dieu. Élie, il laisse le champ libre à Dieu, il se couche, il attend. J'espère. Ou peut-être même pas. Il n'a même pas la force d'attendre, parce que quand on attend, on a une espérance. Il se permet de rien faire, mais il s'est adressé à Dieu. La suite, alors un ange vint le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Dieu, il intervient parce qu'il nous aime, puis il voit l'enjeu. Il voit que quand on se bat pour des bonnes choses, eh ben, le diable, il va tout faire pour nous décourager. Il vole, il égorge, il détruit notre paix, notre joie de vivre, notre espérance, notre confiance en Dieu, aussi nos récompenses. C'est vrai que quand on s'investit, la récompense, c'est le résultat. Et il fait tout pour qu'il n'y ait pas un résultat et que ça nous décourage profondément. Mais Dieu, il ne laisse pas faire cette chose-là. Mais parce qu'il veut en arriver à quelque chose avec Élie. Il n'en a pas fini avec lui. Il ne veut pas juste l'utiliser pour son service. Et je trouve beau, parce que souvent on parle que Dieu nous utilise, et là on voit que Dieu, il a un autre souci. Moi j'aime aussi, ben Dieu il envoie cet ange, ce messager, et j'aime cette pensée que l'ange, la première chose qu'il fait, il n'est pas en train de le secouer, il le touche. Et il lui parle et il le stimule. Et des fois, je me dis que dans le brouhaha de nos vies, si Dieu nous envoyait un ange, on est tellement pris par souvent le stress, par que peut-être Dieu nous envoie des fois des anges pour nous toucher, pour nous parler, pour nous stimuler, puis on est pris par autre chose. C'est en cela que je dis que Élie, ben, là, c'est un moment favorable où Dieu peut le toucher. Ça peut être dans notre lit aussi que Dieu peut faire ça. Moi, je vois chez les personnes âgées qui arrivent vers la fin de leur vie, et puis souvent, ils ont aussi investi pour le bien. Puis elles sont souvent très découragées à la fin de leur vie parce qu'elles se demandent, ben, elle a servi à quoi ma vie? Puis quand on revoit leur vie, puis je leur demande, mais qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Je suis étonnée le nombre de personnes âgées, particulièrement celles qui ne sont pas croyantes, qui me parlent d'un animal qui leur a fait du bien. Et moi, ça me touche tellement parce que c'est souvent à travers la relation avec une petite créature, un chat, un chien, que je peux parler de l'amour de Dieu, de cet ange qui vient et qui touche et qui parle et qui redonne des forces, hein, et qui nourrit. Et c'est fou comme avec ça, beaucoup de personnes âgées, elles arrivent à reconnecter avec Dieu. Moi, je leur dis que souvent, si je suis croyante, c'est parce que je me dis, mais un Dieu qui a été capable de créer un chat, un chien, pour nous toucher, nous, eh bien, ça, il vaut la peine d'être aimé, d'être connu. Et moi, c'est souvent la porte d'entrée pour aller plus loin avec ces personnes âgées dans mon travail. Et je pense que Dieu, souvent, il nous envoie des petits clins d'œil et tout ça. Puis c'est tellement important qu'on ne les oublie pas, qu'on soit sensible à ces petites choses mais où Dieu cherche à nous rejoindre parce qu'il n'est pas d'accord qu'on soit à terre et abattu. Et c'est des choses souvent très personnalisées à notre niveau. Peut-être que nous, on est cet ange-là qui est appelé pour aller vers quelqu'un et le toucher, l'encourager. Voilà. L'ange du Seigneur, ben parce qu'on voit qu'il s'est recouché, Élie, ça n'a pas suffi. Donc l'ange revient le toucher, lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Et Élie se leva pour manger, boire. Puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. C'est un autre nom pour dire le Sinaï, là où Moïse a reçu les 10 commandements. Et puis là, arrivé à Horeb, il entre dans une caverne où il passa la nuit. Moi, j'aime cet ange parce qu'à travers lui, Dieu, il parle de notre avenir. Et quand il lui dit qu'il doit faire un très long voyage, il devra faire 300-400 kilomètres, et puis cette nourriture qu'il va recevoir va suffire pour ces 300-400 kilomètres. Et c'est une façon de dire à Dieu, nous dire à nous, mais ce que moi je vous donne, ça suffit pour traverser le long voyage qui est devant nous. On est ici, sur cette terre, dans un état terrestre limité. Et puis, on est tous en chemin vers un au-delà gigantesque, dans la pleine présence de Dieu. On est tous dans ce voyage-là. On est tous même dans une quête, et quelque part, que ce soit dans notre religion ou les autres, il y a comme une recherche de nous rapprocher de Dieu, de l'être humain que nous sommes, de toucher, de vivre quelque chose avec l'être divin. Et 40, c'est le chiffre de l'épreuve dans la Bible, mais c'est aussi un symbole de notre traversée terrestre, ces 40, pour arriver jusqu'à Dieu. Moi, sincèrement, je trouve que c'est un miracle pour Dieu, à notre époque, de pouvoir se garder un peuple et de motiver les gens aujourd'hui à encore être sur ce chemin qui va jusque vers l'éternité. Et souvent, je me dis, mais il fait comment Dieu? Parce qu'ici, d'une certaine façon, on a tout, nourriture, tout est disponible. Et puis, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, ben, à part Dieu, on n'a rien. Et certains de nos concitoyens manifestent clairement qu'ils ont si peu dans leur vie. Et quand même, Dieu, d'une façon ou d'une autre, il arrive à canaliser et amener un peuple vers lui. Et la même chose, il y a des pays où c'est tout le contraire. Il y a des gens, mais ils n'ont rien. Et Dieu arrive à les amener à lui et à leur faire traverser toute leur vie terrestre jusqu'à lui. Et moi, ça m'épate. Il n'y a que Dieu qui peut arriver à faire ça. Mais j'aime aussi parce que ça responsabilise aussi Dieu. C'est sa part à lui. Et c'est le début de la sortie. Alors, le Seigneur lui adressa la parole et lui dit, pourquoi es-tu ici, Élie? On pourrait dire, comment toi, ici, Élie? Élie répondit, Seigneur, Dieu de l'univers. Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. C'est le début de la sortie d'Élie, de son repliement de soi, où Dieu lui dit de sortir. Là, c'est vraiment en direct. Et puis, c'est marrant que Dieu lui pose la question parce qu'il connaît tout, il sait tout. En plus, Élie s'est déjà exprimé. C'est une façon à Dieu de lui dire, tu sais quoi, Élie, moi, je m'intéresse à toi vraiment. J'ai envie que tu restes pas seul avec ce qui travaille ton cœur. J'ai besoin que tu t'exprimes. J'ai besoin d'être en dialogue avec toi. Dis-moi tout. Et c'est comme ça qu'il va s'exprimer. Dieu, il crée le lien comme ça avec Élie. Il l'appelle à sortir de sa caverne. Des fois, voilà, ça nous fait du bien d'aller nous réfugier dans une caverne, mais d'y vivre toujours, ça nous empêche de voir la lumière, la chaleur, Dieu lui-même. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il n'y a aucun reproche de la part de Dieu. Et puis j'aime ce côté sobre de Dieu. Sors, lui dit Seigneur. Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit d'un léger souffle. Il y a plusieurs traductions. Il y en a qui disent une brise légère, une voix, un silence subtil, le son d'une douceur tranquille. C'est le Dieu intime qui se révèle. C'est fou parce que Élie, il avait vraiment l'habitude de la manifestation d'un Dieu puissant. Il l'a vu le jour avant. Il connaît cette partie-là. Et moi, ce qui me touche, c'est que dans le désespoir d'Élie, ce que Dieu fait, c'est de révéler une facette de lui, une nouvelle facette de lui. Moi, sincèrement, c'est une des choses qui me fait le plus de bien. C'est, je viens vers Dieu, puis je me dis, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'un bon berger, j'ai besoin de mon père, ou je ne sais pas. Je viens avec un a priori vers Dieu. Et puis, tout d'un coup, Dieu se révèle différemment. Ce jour-là, il est le Dieu au cœur de mer, par exemple. Il est mon maître, ou bien il est mon sauveur, ou il est ma lumière, je ne sais pas. Mais j'aime ce côté de me dire que Dieu, il cherche à me surprendre et à se révéler tel qu'il est avec une nouvelle facette. Parce que Dieu, il aimerait tellement qu'on le connaisse vraiment. Et je crois qu'on l'aime d'autant plus. Plus qu'on le connaît, plus qu'on l'aime, plus qu'on découvre ses facettes. Et moi, je pense que Dieu, il espérait que le fait de se révéler dans cette douceur, dans ce calme, dans ce côté discret, dans ce côté physique aussi, parce qu'une brise, on sent ce vent doux, hein, que Élie allait comprendre ce qui était bon pour lui. Enfin, un cœur à cœur avec Dieu à un autre niveau. Dieu, il est tout proche, là, cette fois, et il n'est pas redoutable. Ça peut-être pour Élie être redoutable, ce côté tout doux, tout proche de Dieu. C'est vrai qu'un ministère comme Élie a eu, ça peut complètement déformer un être humain, parce qu'il était vraiment dans une démonstration de puissance, dans l'autorité, dans la force, dans le courage, dans le combat, vraiment. Et à la longue, il peut imaginer que Dieu n'est que comme ça. Et en fait, Dieu est en train de lui montrer un autre côté de lui. C'est comme si Dieu voulait s'offrir, s'exposer. Je dirais même qu'il y a une authenticité réciproque. Élie est venu comme il était, ben Dieu, il vient avec quelque chose de lui. Quelque part, il parle déjà de ce que Dieu, à travers Jésus, sera sur la terre. Où on a, bien sûr, il avait le côté puissant, le côté surprenant, autorité avec force. Il était de notre monde avec ça. Mais il y avait un autre côté aussi. Et dans notre chant tout à l'heure, on a dit qu'il a terrassé la croix. Il s'est laissé terrasser par la croix. Et comme ça, oui, il a anéanti le pouvoir de la croix. Mais il y a ce côté vulnérable de Dieu, ce côté doux, tranquille, discret, respectueux. Et c'est tout ça qui favorise notre intimité avec Dieu. C'est qu'il est aussi comme ça et il s'approche de nous ainsi. Et dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» J'aime bien le « comment, toi, ici ?» Et Élie va répondre exactement la même chose. Dans une autre version, il dit « Seigneur Dieu de l'univers, j'ai agi, j'ai déployé tout mon zèle pour toi, éternel Dieu des armées. Et car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis restée moi seule et ils cherchent à m'ôter la vie. » Moi, ça me touche beaucoup que Dieu, il vient, il essaye quelque chose avec Élie. Et puis Élie, s'il a fait le vide autour de lui, visiblement à l'intérieur de lui, c'est pas vide. Il est plein de ce qu'il a vécu. Moi, ça me touche parce que quelque part, c'est comme si Dieu était en échec. Il n'a pas réussi, même en se montrant comme ça avec lui. Et Dieu, des fois, il est en échec avec nous. Il fait tout bien, lui, et puis il ne réussit pas. Comme Élie, qui a fait tout bien, mais il n'a pas réussi. Et je trouve beau ce parallèle entre Élie, dans cette intimité, et puis Dieu, qui semble un peu en échec dans cette révélation de cette partie de lui-même. Élie, il n'est pas en train de lui dire « Avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Non, il n'y a pas... Moi, je ne le vois pas, en tout cas. Il n'y a aucun reproche de la part de Dieu. Et Dieu, cette fois-ci, va traiter directement le découragement et le sentiment de solitude d'Élie. « Tu dis que tu es resté tout seul ?» Non, va, retourne, regarde ce que je vais faire. C'est comme s'il lui disait ça. Alors, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors déjà, Dieu veut ouvrir les yeux d'Élie, mais nous aussi, quand on est tout seul, puis qu'on dit qu'on est tout seul, la réalité c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y en a beaucoup qui traversent par ce quoi on passe. Et peut-être c'est d'autres circonstances, mais ça fait le même effet. Et puis, Dieu... Alors, c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, c'est des choses terribles que Dieu lui dit. Il lui dit ce qu'il doit faire. Finalement, on verra par la suite qu'Élie n'aura même pas besoin de faire certaines de ces choses, que les choses vont se passer différemment, qu'effectivement... Les ennemis personnels de Élie et de cette génération vont mourir dans des circonstances rudes. Mais c'est une façon aussi de dire à Élie, là, il va y avoir un changement dans ta vie. Euh, quand il lui dit qu'il y a 7000 hommes qui restent, c'est pour dire il y a la totale, c'est le chiffre parfait de Dieu amplifié, 7000. Il y a des gens qui se combattent pour le bien, comme toi, et tu n'es pas tout seul. Et moi, je m'en occupe, et je vais aller jusqu'au bout. Il essaye quelque part de lui décharger de ce fardeau, de solitude, de tout porter lui-même. Et parfois, notre désespoir vient aussi de ça. Ce n'est pas seulement qu'on attendait un résultat, c'est qu'on croit qu'on était le seul à devoir faire tout, ou bien on a vraiment fait tout seul, et on est comme anéanti. Et là, Dieu est en train de lui dire « mais non ». Il y a des gens courageux qui vont continuer, il y a un après, et il y a un attachement à moi dans le cœur d'autres personnes. Je t'assure, Élie, c'est bon, je suis là, il y a moi. Je t'ouvre les yeux sur d'autres sources d'encouragement que tu vas avoir et d'aide qui est déjà là, réservée pour toi, pour ceux que tu aimes. Et moi, ça me fait penser un petit peu à Jésus qui dit que son joug, il est facile et léger. Il est, parce que lui, il est doux et humble et il aimerait nous enseigner ça. Élie voulait du résultat sur le terrain qui lui était habituel, familier, voilà, dans son peuple. Et puis Dieu, il va le faire aller ailleurs, vers un nouveau roi, vers un nouveau prophète. Et des fois... Dieu aimerait nous faire bifurquer aussi dans un autre appel ou dans autre chose. Et puis nous, on s'accroche à ce pourquoi on a combattu toujours. Et même moi, je suis dans une période où je sens qu'il y a des choses que j'ai faites pour lesquelles j'ai combattu une grande partie de ma vie. Puis je suis là devant Dieu, puis je me dis, tout ça, ça va être canalisé pour où ? C'est où ma suite ? Et c'est important aussi qu'on se retrouve à un moment donné comme ça. Et c'est des fois quand on est désespéré que Dieu arrive le mieux à reprendre les choses en main. Et j'ai un collègue qui dit toujours, et on a besoin de l'entendre dans notre monde où parfois on a l'impression comme Élie que tout s'effondre, que tout devient de plus en plus difficile, que Dieu il est au contrôle, il est aux commandes et qu'il nous interpelle. Et il m'avait donné une image qui m'a beaucoup encouragée. Moi, des fois, j'avais l'impression d'être seule ou avec une petite équipe dans une jungle, puis qu'on a des machettes, et puis qu'on se bat pour avancer, pour défricher un terrain. Et puis tout d'un coup, c'est comme si Dieu m'avait soulevée, puis je voyais vraiment la jungle, mais je voyais qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient en train de faire la même chose, et puis qu'en fait, au centre, il y avait Jésus, dans un lieu déjà dégagé, puis qu'on allait le rejoindre. Et moi, ça m'a énormément encouragée, cette image. Et en conclusion, je trouve qu'en lisant ces lignes, on ne peut pas ignorer le désir de Dieu de vivre l'intimité avec nous, d'avoir quelque chose de très intime entre lui et nous. Et nous, on a été créés à l'image de lui. Alors si lui, il désire vivre ça en nous, il y a ce désir en nous aussi. Puis on l'a manifesté, par exemple, dans nos chants. Quand on dit « je n'ai qu'un désir, c'est d'habiter dans ta maison », quelque part, derrière tous nos autres désirs, et ce qu'on recherche dans nos plaisirs, dans nos satisfactions et tout, au bout du compte, c'est bien ça qu'on désire, c'est la présence de Dieu et désencombré de tout ce qui peut envahir. J'aime paraphraser c'est dans Matthieu 5, c'est Jésus qui dit quand tu pries, entre chez toi, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui voit dans le secret et il te le rendra. Et moi j'aime le dire comme ça. Andrea, quand tu désires me parler, tu entres dans un lieu où tu te désencombres, où tu fermes la porte à tout ce qui est extérieur et où tu t'exprimes depuis ce lieu protégé, à l'abri de tous. Et moi, je t'entends et je pose un regard attendri sur toi. Je serai là et à ce moment que tu m'offres, ce moment que tu me donnes, moi, je te le rendrai. Et c'est un lieu où il n'y a plus que Dieu et moi. Et j'ai besoin de le vivre. Jésus, il a été le maître de l'intimité, de ses rencontres, même les plus inattendues. Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais en quelques instants, dans un lieu, dans un instant protégé, de tout et de tous, même ça pouvait être au milieu d'une foule, il arrive à créer cette connexion unique, personnalisée, qui allait tout changer dans la vie de la personne. Et c'est ce qu'on est aussi appelé à vivre. Il y a des personnes qui sont très douées pour ça. Moi, j'avoue qu'à la fin d'un culte, c'est souvent ça aussi que je recherche. C'est un moment de communion avec mon frère, ma sœur, qui va me connecter à Dieu dans cette relation. J'ai de la peine à me disperser, puis à saluer tout le monde. Je suis quelqu'un qui aime l'intimité. De notre monde très virtualisé, c'est difficile maintenant de vivre l'intimité. Avec mon mari, on était dans un restaurant, il y avait une famille de 4 ou 5 personnes, chacun avait son attel, et pendant qu'ils mangeaient, chacun, voilà, il y a un invité maintenant, c'est les écrans, dans toutes nos intimités. Et on ne se rend pas compte, souvent, c'est que ça change notre cerveau. Moi, je me rends compte que préparer un message sur un ordinateur, ça court-circuite quelque chose dans mon cerveau. Je suis moins créative, je suis moins inspirée, j'entends moins Dieu. Finalement, j'ai quand même besoin de rien, si ce n'est la parole de Dieu, un stylo, une feuille. Alors peut-être il y en a qui arrivent à pas vivre les choses comme moi. Moi, j'ai de la peine, j'ai besoin de désencombrer pour arriver à l'essentiel, à quelque chose d'autre qui me surprend. Et notre monde a besoin de nos prières, nous-mêmes, on en a besoin pour retrouver cette capacité à vivre l'intimité. Et peut-être supplier Jésus, je ne sais pas, que quand Dieu vient avec son souffle léger, eh ben, ça souffle sur tout ce qui nous encombre, comme Élie qui était encombré par tout ce qu'il avait vécu et qui est vraiment un vide que Dieu peut remplir. Et j'aimerais prier pour ça avec vous. Père Céleste, merci pour cette magnifique histoire d'Élie. Il est dit dans ta parole que Élie, il était de même nature que nous. Par contre, il priait avec une telle insistance qu'il avait des exaucements que nous, on n'a pas. Et Seigneur, moi, ça me touche de me dire que toi aussi, tu peux être en échec avec nous. Tu savais d'avance. Avec Élie, tu le sais d'avance avec nous et pourtant tu persévères. Tu viens. Il y a 4 fois où tu interviens dans cette histoire. Tu aimes le lien avec nous. Tu aimes ces moments où il n'y a plus que toi et moi. Toi et chacun de mes frères et sœurs ici. Toi et l'être humain. Et tu vois qu'on est dans un monde où on est complètement envahi. Et c'est difficile pour nous de vivre cette intimité avec toi. Et à travers cette histoire, on voit que c'est difficile pour toi aussi de vivre l'intimité avec nous. Déjà, Seigneur, on veut te demander pardon pour nous-mêmes, pour notre monde, qui, avec les réseaux sociaux et tout ça, a tout envahi. Mais aussi, on est nombreux et les espaces sont envahis. Le bruit a tout envahi. Tu vois, Seigneur, ce que l'humanité est en train de vivre. On te demande pardon parce que certainement, ce n'était pas tout à fait comme ça que tu voyais les choses. Et que toi, aux commandes, en régnant, si on t'avait écouté, je ne sais pas comment, mais les choses seraient différentes. Alors Seigneur, on te demande pardon pour que nous et notre monde, on bénéficie de ta grâce, du sang de Jésus qui se répand sur le monde, sur nous, sur ton Église, pour racheter notre capacité à entrer et à vivre l'intimité avec toi. Seigneur Jésus, merci de pouvoir te demander de vivre en nous, toi qui as vécu l'intimité avec le Père à l'écart. Tu savais comment te retirer de tout, être seul avec Dieu. Tu savais vivre l'intimité avec ceux qui t'ont côtoyé. Eh bien, tu es en nous et nous t'invitons à raviver notre capacité ou à faire renaître notre capacité à vivre une intimité puissante, profonde, féconde, magnifique, intéressante, qui nous enthousiasme dans notre vie avec toi et qui va nous donner la force, comme pour Élie, d'aller jusqu'au bout d'un chemin qui a été hyper courageux et fécond après. Et Seigneur, merci, parce que tu ne fais pas ça pour nous utiliser, mais pour nous donner la joie d'être à tes côtés et de continuer cette merveilleuse aventure qui est notre vie terrestre, jusqu'à ce qu'on arrive dans ta présence parfaite. Tu es à nos côtés et tu as aplani le chemin pour nous, pour ce chemin. Tu es ce chemin pour nous. Alors on te dit un grand merci. Amen.